enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Retour en Amérique et dans les enjeux internationaux ce matin, il est question de Donald Trump et du Parti républicain. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie Chudet et bonjour Alexandre Andra.
Bonjour Thierry Garcin.
Alors, vous êtes co-auteur d'un ouvrage très intéressant intitulé « Géopolitique des États-Unis », donc co-écrit, co-rédigé avec Thomas Negaroff aux Presses universitaires de France qui vient de paraître. On va parler de la politique intérieure, en revanche, ce matin. Alors, on le sait, même si le Congrès est un acteur clé de la vie politique américaine, sur le plan interne et externe, on a souvent rappelé que les partis politiques aux États-Unis étaient en fait des machines électorales. Alors, le Parti démocrate est traditionnellement, on va dire, de centre-gauche, encore que les notions de droite et de gauche aux États-Unis soient très différentes de ce qu'elles sont historiquement en Europe. Et puis le Parti républicain est de plus en plus à droite, voire de droite extrême, avec des éléments même d'extrême droite. Alors, il se trouve que le candidat Donald Trump n'a pas véritablement choisi le parti, lequel était obligé de l'adouber. De plus, ce que dit le candidat déroge avec de nombreux principes des républicains, aussi bien sur l'économie que sur la défense. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son corps de pensée semble assez hybride, finalement. Et comment est-ce que c'est vécu de l'intérieur du parti et comment réciproquement il y aura des conséquences pour le parti républicain en cas d'échec électoral de Donald Trump. Alors, Alexandre Andorra, est-ce que ces éléments vous conviennent pour poser la question ?
Oui, bien sûr, c'est un très bon panorama que vous venez de faire là. Alors, effectivement, on a une sorte de d'évolution structurelle depuis une vingtaine d'années au parti républicain avec qui émerge un tiercé gagnant, je dirais, axé autour de l'accent même mis par des candidats eux-mêmes sur incompétence, ignorance et des insinuations, des petites phrases. C'est vrai, c'est la spécialité de Donald Trump, il fait ça souvent.
Il est toujours en réaction.
Oui, exactement.
Il développe très peu d'ailleurs.
Oui, il développe très très peu, c'est toujours très très général, il n'y a jamais de détails dans ses propositions politiques. Mais je dirais qu'il est loin d'être un épiphénomène, hein, parce que rien que pendant ses primaires, vous avez eu Ben Carson qui trouvait qu'un président américain ne pouvait pas être musulman. Jeb Bush, qui était supposé modéré, estimait qu'il fallait accueillir uniquement les réfugiés syriens chrétiens.
Oui, c'était voilà. Donc le frère, enfin c'est toujours d'ailleurs, oui. Le frère de l'ancien président.
Exactement. Et donc je dirais que Trump n'est pas apparu ex nihilo. Hein. C'est certes une illustration parfaite, paroxysmique de l'évolution du GOP depuis une vingtaine d'années, mais on a eu une sorte de crescendo comme ça, de personnalité politique de plus en plus démagogue, hein, qui revendiquent leur manque de compétences politiques, voire leur ignorance comme un gage d'authenticité. On peut se souvenir, on a eu Newt Gingrich à partir de 1994 à la présidence de la Chambre des représentants, qui est d'ailleurs un des conseillers de Trump maintenant. Ensuite, vous avez eu Sarah Palin, puis le Tea Party, maintenant vous avez Trump.
Et puis Bush fils d'une certaine façon, qui n'était pas un champion de la pensée intellectuelle, on va dire ça poliment. Alors, il y a aussi des traits quand même chez Trump, peut-être pas seulement chez Trump, des traits de populisme.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que au sein du Parti républicain, déjà, comme vous l'avez dit, son programme est pas vraiment en phase avec les positions orthodoxes républicaines sur le libre-échange, la politique étrangère, la politique économique. Mais ce qui est significatif, c'est que il est ouvertement soutenu par un mouvement appelé la droite alternative, donc ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, son nouveau directeur de campagne depuis août 2016, Stephen Bannon, est une bonne illustration de ce mouvement, puisqu'il il dirige un site d'actualité qu'il décrit lui-même comme une plateforme pour ce mouvement de droite alternative. Et c'est un mouvement qui est assez inquiétant, hein, qui est anti-féministe, qui définit les États-Unis comme une nation blanche, qui considère qu'il y a des différences biologiques entre les races, et qui s'est fait connaître notamment par Internet, avec des campagnes de même agressives sur dirigées contre les minorités, et notamment contre les juifs. Et d'ailleurs, il y a un bon nombre de membres de ce mouvement de droite alternative qui se décrit ouvertement comme néo-nazis.
Alors ça, c'est le premier point, le premier aspect avec ce populisme et des traits d'ailleurs du populisme qu'on retrouve en Europe aussi, notamment en Europe centrale, c'est-à-dire, et je reprends d'ailleurs certains éléments de Dominique Régnier dans son ouvrage sur le populisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait un chef salvateur, être anti-establishment, élite ou institution, des solutions rapides à des problèmes complexes, des jugements simplificateurs à l'emporte-pièce, etc. Alors, comment tout cela évolue-t-il justement dans la campagne?
Eh bien, Déjà, vous avez effectivement, comme on disait tout à l'heure, des mouvements de va-et-vient de Donald Trump sur ses propositions, des volte-face, pourtant sur des propositions qui sont assez marquantes, voire absurdes, hein, comme par exemple l'idée d'interdire temporairement l'entrée des musulmans sur le territoire américain. Il avait d'abord lancé cette idée, puis quand il avait vu que...
C'est même pas une solution, c'est une impossibilité.
Ouais, c'est exactement. Et quand il avait vu que c'était pas très très rentable dans les sondages, il avait dit hop. Ah oui, mais vous savez, c'était simplement une idée, c'est pas forcément la bonne solution. Puis quand il y avait eu l'attentat de Nice et la tuerie à Orlando, alors là, de nouveau, il avait dit, ah ben vous voyez, je savais, il fallait faire ça depuis le début. Et là, maintenant qu'il tombe de nouveau dans les sondages, il modère de nouveau son discours. Donc, voilà, c'est toujours des volte-face.
Et en même temps, il ne faut pas se nier l'évidence, il correspond à une demande.
Ah, bien sûr.
Où il entre en résonance avec un besoin.
Ah oui, bien sûr.
Populaire.
Oui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une sorte de... C'est un besoin qui répond à une idée que les sentiments sont comme des faits, comme des données, en fait. Il y a vraiment une insistance sur les sentiments dans cette campagne plutôt que sur les faits et les données chiffrées. On entend souvent des phrases. Newt Gingrich a dit dans une interview sur CNN « Ah, je vous parie que l'Américain moyen qui nous écoute ne se sent pas plus en sécurité, ne sent pas que la criminalité a baissé. » Alors que la plupart de ces sentiments avancés par l'équipe de Trump est contredit par les faits. Hein.
Est-ce que ça a des conséquences sur le parti? Comment est-ce que c'est vécu par les caciques du Parti républicain, par les militants, etc. Et puis par les gens de bonne foi qui ont le droit aussi d'être aussi bien républicains que démocrates.
Bien sûr. Alors sur la direction du Parti républicain, je dirais que la position est vraiment très difficile à cerner et même à tenir, parce que à la fois ils le soutiennent, mais ils ne le supportent pas, ils se distinguent souvent de ce qu'il dit. Mais même d'une manière générale, je dirais qu'ils ont plutôt beau jeu de le faire maintenant, de le critiquer maintenant, parce que si on se souvient, en 2010-2012 déjà, quand Donald Trump n'arrêtait pas de marteler que Barack Obama était né au Kenya et pas aux États-Unis, donc sous-entendant qu'il n'était pas légitime pour être président, le même establishment républicain qui critique Donald Trump aujourd'hui ne disait rien. En fait, tant que c'était dirigé contre le Parti démocrate et contre Barack Obama, ça leur allait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez John McCain qui critique vraiment fortement Donald Trump, mais si on se souvient bien, en 2008, pour sa campagne, il avait choisi comme colistière Sarah Palin, qui s'était distinguée par son ignorance et surtout qui aujourd'hui, qui soutient ouvertement et vigoureusement Donald Trump. Et pareil pour Mitt Romney, en 2012, il avait chaleureusement accueilli le soutien de Donald Trump pour sa campagne présidentielle et il avait loué, je cite, sa compréhension extraordinaire de l'économie. Et aujourd'hui, il dénonce sa misogynie. Donc, on voit vraiment qu'ils ont...
Mais c'est un parti alors qui peut en souffrir en cas d'échec de Trump à l'élection de novembre.
Oui, ah bah bien sûr. Déjà, là, maintenant, à court terme, on a un glissement du Parti républicain qui se transforme d'un conservatisme traditionnel, historique, en un nationalisme véritablement raciste. Hein. Et de manière plus prosaïque, je dirais, cela risque évidemment de faire perdre les minorités au Parti républicain. D'ailleurs, Donald Trump est à 1% des intentions de vote chez les Afro-Américains. Et évidemment, ça risque de garantir des victoires électorales massives au mouvement progressiste en novembre.
Mais en même temps, pour revenir à premier élément de votre propos, c'est que ça reste un phénomène global.
Oui, bien sûr.
Dans
bien
le paysage électoral et politique et sociologique.
Bien sûr, bien
américain.
Sûr. Et c'est pour ça que on a du mal à voir comment le Parti républicain pourrait faire son adjournamento après. Vous avez des personnalités comme Ted Cruz, Marco Rubio qui seront toujours là et qui ne sont pas forcément meilleurs que Donald Trump.
Merci Alexandre Andora. Alors je rappelle que vous avez coécrit avec Thomas Negaroff Géopolitique des États-Unis au Presse universitaire de France. Beaucoup d'émissions aujourd'hui sur France Culture consacrées aux États-Unis, l'Amérique aujourd'hui. FranceCulture.fr pour écouter l'émission et la télécharger. Et bien sûr les enjeux internationaux comme chaque vendredi en partenariat avec nos amis du Dessous des Cartes. Demain, 19h30 sur Arte, le sujet révolution cartographique, point d'interrogation, à propos de Google, son service de cartographie inauguré en 2005.